Solidarité Santé, Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, on parle de la santé maternelle, accès à la contraception, suivi de la grossesse, accouchement. On en parle à l'occasion de la journée de la femme, vous l'avez compris. Et on en parle avec Annick Janté, qui est consultante pour l'OMS sur les questions de couverture santé universelle. Catherine Gibouin, responsable du groupe Santé sexuelle et reproductive à Médecins du Monde. Et le docteur Luc de Bernis, conseiller pour la santé maternelle au Fonds des Nations Unies pour la population. Luc de Bernis, juste avant les informations, vous nous disiez que le Niger donc est en train de progresser dans cette lutte contre la mortalité maternelle, mais que de façon générale, on constatait que l'Afrique anglophone avance plus vite que l'Afrique francophone. Et j'aimerais bien quand même comprendre pourquoi. Est-ce que c'est pas en partie dû au fait que l'aide bilatérale française a beaucoup diminué, ce qui n'a pas été le cas de l'aide américaine ou britannique ?
Oh, c'est une question complexe et je ne suis pas sûr que je sois le mieux placé parce que c'est une analyse difficile. Quelques points. Il est clair qu'en santé de la reproduction, les pays anglophones reçoivent plus d'appui financier et technique que les pays francophones. La France s'est retrouvée un petit peu seule sur les pays sahéliens francophones en matière d'aide au développement, sur la santé particulièrement. Et les ONG françaises existent, mais n'ont pas la puissance de feu d'un certain nombre d'ONG internationales et particulièrement anglophones, américaines et anglaises, mais aussi néerlandaises et d'autres pays qui sont tous plus anglophones que francophones. Alors, c'est quelque chose qui doit évoluer, mais cela fait pour moi partie des faits qu'on peut analyser. Maintenant, c'est pour ça aussi qu'on parlait de l'effort Muskoka en début d'émission, c'est pour ça aussi que
vous êtes à Dakar en ce moment, c'est bien pour ça.
Mise à disposition par la France, donc 500 millions sur 5 ans, avec 19 millions pour les agences des Nations Unies, et un gros travail qui va être fait par l'Agence française de développement, avec lesquels on essaie de se coordonner le mieux possible, ce sont des avancées extrêmement importantes, parce qu'encore une fois, malgré tout, les fonds disponibles pour le renforcement des systèmes de santé et la santé maternelle restent très très limité dans tous les pays dont nous parlons.
Catherine Gibouin, une réaction par rapport à cette question de la force des ONG anglo-saxonnes qui ont un peu plus de moyens que ce que vous n'auriez. Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Luc de Bernis là-dessus ?
Je suis d'accord si on compare effectivement les budgets des ONG américaines et des ONG françaises. C'est vrai que les ONG françaises sont de taille moyenne. Néanmoins, sur cette question spécifique de la santé sexuelle et reproductive, aujourd'hui, on a un financement conséquent de l'Agence française de développement sur ce sujet, sur une dizaine de pays. Mais effectivement, c'est, je crois, sur 2 ans, 2,5 millions. Ce qui est pour nous nouveau et ce qui a été très, très effectif, c'est de travailler sur plusieurs pays, d'avoir des activités transversales et de pouvoir organiser des choses sur une région. On travaille sur l'Afrique subsaharienne, on travaille aussi sur l'Amérique latine, sur l'Asie. Mais le fait de travailler sur N pays en même temps avec un financement global nous a fait beaucoup avancer nous-mêmes, je trouve. Ça a été très positif.
Et alors justement, Catherine Gibouin, de façon très concrète, que fait Médecins du Monde dans ce domaine de la santé maternelle ?
Alors, en Afrique subsaharienne, pour reprendre un petit peu ce que disait Luc de Bernis, effectivement, on travaille sur le Niger, le Mali, enfin Mali c'est un peu plus compliqué, Burkina, Tchad, sur des problématiques de renforcement de systèmes de santé, mais aussi sur les problématiques d'accessibilité financière, parce que je pense que c'est un enjeu majeur. On est à la fois, je crois que la difficulté de travailler sur la santé maternelle, c'est à la fois d'améliorer l'offre de soins, et c'est vrai que ça renvoie à l'ensemble du système de santé, de la communauté, à l'hôpital de troisième niveau quand on parle de césarienne. Mais ce qui est très complexe, c'est qu'il faut aussi travailler sur la demande. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une offre de service tout à fait de qualité, il faut que les femmes puissent venir. Et pour qu'elles puissent venir, ça veut dire que c'est pas trop loin, que c'est pas trop cher.
Que la route est pas trop mauvaise.
Que la route est pas trop mauvaise. Et là, on est sur des déterminants plus difficiles pour des ONG, finalement, parce que c'est pas nécessairement notre cœur de métier.
De faire des routes,
ça c'est plus difficile. Mais on travaille par exemple sur ce qu'on appelle des maternity waiting homes, c'est de mettre des maisons d'attente pour les femmes enceintes quand les structures de santé sont trop loin. C'est des expériences qu'on mène au Libéria, pour parler d'Afrique.
C'est-à-dire la femme, quand elle arrive au 8e mois, de pouvoir s'installer dans une maison à côté de la maternité si elle habite à 30 ou 40 ou 50
km. Mais ce qu'on fait, par exemple, au Niger et Burkina, et sur le Tchad aussi, c'est vraiment tout un travail sur l'exemption, qui sont des politiques nationales qu'on soutient, de rendre gratuit les consultations prénatales, l'accouchement, la césarienne. Par exemple, au Niger, ce sont les consultations prénatales et la césarienne, mais l'accouchement reste payant. Et on a mené, par exemple, des projets pilotes pour voir quel serait l'impact.
Bon. La conclusion, c'est quoi? C'est
que on améliore énormément les accouchements institutionnels.
Il y a une baisse de la mortalité maternelle, du coup.
Mais il faut en même temps renforcer les systèmes de santé, puisqu'on améliore, on augmente sensiblement la demande. Et donc, les systèmes de santé qui sont fragiles se trouvent confrontés à un doublement, un triplement de la demande. S'il n'y a pas assez de médicaments, c'est problématique. Donc, il faut prévoir en amont et accompagner les systèmes de santé dans ce domaine-là.
Alors Annick Janté, c'est un domaine que vous connaissez bien, cette question de la couverture santé universelle. Je l'ai bien dit en vous présentant, vous êtes consultante pour l'OMS sur ces questions de couverture santé universelle. Qu'est-ce qu'il faudrait prévoir justement sur ces questions de santé maternelle? La gratuité est un des moyens d'améliorer justement cette santé?
Ah ben oui, ça a été prouvé par A plus B, par moult rapports, le dernier étant celui de l'OMS de 2010 sur l'accès financier aux soins. C'est sûr que le paiement des soins à l'acte ne favorise absolument pas l'accès aux soins pour les populations les plus pauvres, les plus vulnérables. Donc là, on parle en plus effectivement des femmes, elles font partie des populations les plus vulnérables, mais il n'y a pas qu'elles. Hein.
Mais alors, comment on organise cette gratuité justement? Qu'est-ce que vous préconisez?
Alors après, évidemment, toute la problématique, c'est de savoir comment on le finance. Cette question-là, il y a toujours quelqu'un qui paye au bout du compte. On sait bien que la gratuité n'est pas gratuite. Enfin, les soins sont pas gratuits. Évidemment, derrière, il y a quelqu'un qui paye. Mais le fait est qu'il faut éviter le plus possible effectivement le paiement à l'acte, parce que quand les gens n'ont pas d'argent. Voilà, il y en a, on peut arriver jusqu'à 100 millions de personnes par an qui sont dans la pauvreté parce qu'ils ont des soins de santé à couvrir. Et du coup, ils n'investissent pas dans l'éducation des enfants, dans la nourriture, etc. Donc tout ça, c'est un cercle vicieux, en fait.
On arrive à dire même maintenant que ça coûte cher économiquement, finalement.
Oui, c'est clair. Enfin, je veux dire,
ne pas soigner,
ne pas investir dans les systèmes de santé, c'est clair que ça joue aussi économiquement pour le développement des pays. Ça, là-dessus, on a tous à peu près le même langage. Après, là où il y a une divergence, c'est...
Et on fait comment?
Voilà, on fait comment, comment on y arrive, etc., etc. Alors, effectivement, il faut que ce soit des systèmes pensés, c'est-à-dire il faut à la fois permettre la gratuité, alors peut-être dans un premier temps... une certaine frange de la population, donc déterminer quelles sont les populations les plus vulnérables, les plus sensibles, les plus marginalisées, pour être sûr qu'elles ont accès aux soins, ce qu'on appelle les indigents aussi. Donc là, il y a beaucoup d'expériences qui ont été faites là-dessus, sur justement comment on arrive à prendre en charge ces populations, comment on les définit, comment on les prend en charge et comment on leur permet d'avoir accès aux soins gratuits. Et derrière, du coup, il faut qu'il y ait un système de remboursement de la part de l'État, effectivement, aux structures de santé qui donnent ces soins, et donc du coup, qui paye derrière ça? C'est il faut mettre en place des systèmes effectivement
de financement
pérenne, à la fois public, parce que s'il n'y a pas du tout de financement public, on est sûr de jamais couvrir les plus pauvres, parce que si vous faites uniquement des systèmes de soins financés par des assurances, par des systèmes de mutuelles, etc., vous aurez toujours les populations effectivement qui ont un travail, qui seront couvertes, mais les autres qui seront jamais couvertes. Donc il faut quand même une large participation des fonds publics dans ces systèmes-là. Et puis, il faut essayer de retrouver effectivement les moyens de développer des systèmes de financement nationaux, avec des systèmes de taxation, de taxer les entreprises d'extraction, les entreprises effectivement de tabac, de téléphones mobiles, etc. Il y a des exemples aussi là-dessus de pays qui ont mis ça en place et
Le
Ghana. Alors le Ghana, c'est différent. Le Ghana, il a mis en place un système de taxation, mais de taxation de la TVA. Donc c'est moins équitable que d'autres pays, mais tout le monde la paye. Donc c'est moins. Mais ils ont aussi, ils essayent aussi effectivement de faire payer justement, de prendre une taxe sur les téléphones mobiles. Donc ça peut fonctionner. Après, chaque pays a son système à développer et ça va prendre du temps. C'est toujours pareil. C'est un investissement sur le long terme, mais c'est un investissement qui est absolument nécessaire.
J'aimerais bien avoir le point de vue de Luc de Bernice sur cette question. D'abord sur l'importance de la gratuité pour les femmes sur le suivi de la grossesse, l'accouchement et même l'accès à la contraception. Ça vous paraît aussi important ?
Ah non, c'est absolument capital et il y a un certain nombre de gens qui travaillent sur ces questions. Il y a des publications régulières. Il y a des expériences aussi de pays qui ont bien démontré ce qui a été dit tout à l'heure très très bien, c'est que il fallait faire attention à ne pas déstabiliser entièrement le système de santé lorsqu'on prenait des mesures politiques de gratuité soudaine. Et donc tout ça est analysé et il y a des progrès qui sont faits. Il y a aussi là aussi des perspectives qui peuvent varier selon les pays avec cette exemption qui pose un certain problème de pérennité. Donc il faut que les États puissent trouver les moyens de la maintenir. On ne peut pas baser une exemption sur uniquement l'aide internationale. Donc ça, c'est très important que ça soit pris en compte dans le budget national. La deuxième chose, ce sont des approches plus à base communautaire qui sont intéressantes aussi à étudier. Et je crois qu'il n'y a pas un seul système qui est valable partout. Donc il faut, comme ça a été dit aussi, il faut un patchwork de différentes options de façon à pouvoir permettre, y compris à ceux qui n'ont pas de moyens, d'accéder aux soins. Et c'est ça, évidemment, la partie la plus difficile. Je voudrais juste
est-ce que je peux vous interrompre là-dessus, sur cette, l'approche communautaire dont vous parlez, est-ce que ça veut dire des systèmes de mutuelles ?
Voilà. Et il y a un très bon exemple qui est en train de s'étendre en Mauritanie, et la RDC est en train d'étudier un système similaire, la République démocratique du Congo. Et en Mauritanie, c'est parti d'hôpitaux de district qui ont proposé des options à la population, y compris pour la population qui ne pouvait pas payer, donc avec toujours une difficulté inhérente, c'est comment est-ce que on peut évidemment identifier ceux qui ne peuvent absolument pas payer, et qui c'est en train de s'étendre parce que ça a largement amélioré la qualité des soins dans les hôpitaux et ça a permis l'accès des personnes avec des tarifications beaucoup plus accessibles qu'autrefois. Donc ce sont ces exemples-là où la communauté joue un rôle capital qui sont aussi intéressantes à côté de politiques d'exemption souvent basées encore sur l'aide internationale.
Avant de vous redonner la parole, Luc de Bernice, je voudrais une réaction d'Annick Janté et de Catherine Gibouin sur cette question des mutuelles. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou vous trouvez qu'il faudrait un système plutôt plus étatique, Annick Janté ?
Moi, je ne pense pas qu'il y ait un système qui marche à 100%. Je crois qu'il faut effectivement s'assurer que les différents systèmes qui sont en place, comment on bâtit dessus un système de financement pérenne. Donc s'il y a des mutuelles qui fonctionnent, continuons avec les mutuelles qui fonctionnent. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que s'il n'y a pas un investissement quand même majoritaire, étatique, dans les systèmes de santé, on risque de passer à côté de certaines populations parce qu'elles ne seront jamais couvertes par le système purement privé. Donc voilà, si ça fonctionne, et si effectivement, et ça existe, les systèmes de mutuelles fonctionnent, très bien. Mais voyons effectivement et analysons sur l'ensemble du pays quels sont les différents moyens qui sont mis en place et qu'est-ce qu'il faut privilégier en gardant quand même un financement public important.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, à l'occasion de la journée de la femme, on parle de la santé maternelle, l'accès à la contraception, suivi de la grossesse, de l'accouchement. Luc de Bernice, une réaction quand même par rapport, je voudrais insister sur ces histoires de mutuelles. Est-ce que c'est pas, avec les mutuelles, mettre en place un système totalement privé ? On a l'exemple des États-Unis où ça n'a pas vraiment marché. Et est-ce que quand même le système étatique là-dessus n'est pas mieux et assure pas plus une égalité pour les plus démunis, entre autres ?
Non, merci de me redonner la parole là-dessus, et je crois qu'il faut vraiment préciser, quand on parle de mutuelle, ce n'est pas forcément une mutuelle à but lucratif et privé. Je parle de mutuelles qui sont assises sur les communautés, c'est-à-dire que ce sont les communautés et les services de santé nationaux, donc l'État est totalement concerné, qui travaillent ensemble. C'est donc un système à participation communautaire, où les communautés comprennent que les systèmes de santé sont faits pour eux, que ce sont les utilisateurs des systèmes de santé et les bénéficiaires, mais donc ils ont le droit de les penser avec les décideurs politiques, et que donc, par exemple, la rationalisation des soins, le fait que les services fonctionnent, que les ambulances ne soient pas en panne et qu'il y ait de l'essence, que les gens soient à leur poste, que la pharmacie fonctionne et que la clé de la pharmacie la nuit soit accessible au personnel. Toute une série de petits détails qui deviennent absolument critiques lorsqu'il s'agit d'urgence. La population peut exiger que cela fonctionne. Donc quand la population paye, elle a le droit de parler, et quand on donne à la population la possibilité de payer de manière équitable, en fonction des revenus, de s'assurer que la population la plus pauvre a aussi accès, parce que si vous faites des péréquations et que vous faites payer même très peu cher un accouchement normal qui coûte pratiquement rien à une structure qui en fait beaucoup, vous gardez de l'argent pour faire que la césarienne soit beaucoup moins chère et puisse même être produite gratuitement pour ceux qui ne peuvent pas payer. Je ne veux pas rentrer dans les détails techniques. Et donc je ne parle pas de mutuelles à but privé et lucratif, je parle de mutuelles qui sont réellement des mutuelles basées sur la participation communautaire et le dialogue entre les systèmes de santé et la population.
C'est intéressant effectivement de faire la différence entre les deux. J'aimerais bien, on a beaucoup parlé dans cette émission de cet objectif, de ces objectifs du millénaire pour le développement en termes de santé maternelle, c'était donc justement de réduire de 3/4 la mortalité maternelle. On a bien compris qu'on n'y était pas encore, la réduction était de moitié, mais on avance. Donc ces objectifs, hein, c'est d'ici à 2015. Qu'est-ce qui va se passer après? Alors je ne sais pas à qui je donne la parole en premier, Annick Janté.
Alors, ce qui va se passer après 2015, c'est une grande question ouverte qui est en pleine discussion actuellement. Effectivement, il y a d'autres enjeux en fait hein, qui sont à prendre en considération dans le développement tel qu'on l'a pensé en 2000. Donc, il faut repenser les objectifs du millénaire.
Où beaucoup étaient consacrés à la santé, je dirais.
Alors, il y en avait sur 8 objectifs, il y en avait 3. Donc voilà. Aujourd'hui, on sait que dans les discussions qui prennent cours aujourd'hui, la santé devrait avoir un objectif, mais un seul. Et parfois c'est même pas évident d'ailleurs que la santé, enfin tout le monde n'est pas d'accord là-dessus non plus parce que il y a effectivement une vision beaucoup plus globale du développement, une vision beaucoup plus globale des différents enjeux et la santé pourrait être une petite partie de plusieurs différents objectifs qui participent au développement global. On pense plus nord-sud, on pense pauvre et on pense pauvre dans le monde entier, donc on n'a plus du tout les mêmes façons d'appréhender les questions du développement et puis le climat qui vient se rajouter là-dessus avec les enjeux derrière qui sont aussi très très forts.
C'est ça le sentiment qu'on a, en tout cas moi ce que j'entends dire, c'est une impression que ça va être très orienté développement durable et qu'on risque un peu d'oublier la santé dans tout ça.
Alors, on pense ça, mais si on voit par exemple, si on regarde ce qui s'est passé au moment de Rio+20 et de la négociation de Rio+20, il y avait une grande déclaration, une pré-déclaration qui était faite
sur l'environnement,
qui a eu lieu l'année dernière. En janvier 2012, il y avait une pré-déclaration qui était faite. Il n'y avait pas une seule fois ou deux fois, je crois, que le mot santé sur 200 paragraphes. Et là, tout d'un coup, il y a une mobilisation de tous les acteurs de la santé. Et à la fin, la santé était au cœur des questions, effectivement, de développement, parce que c'est une conséquence, c'est une cause, c'est un effet du développement, et on peut pas la nier. Donc, d'une manière ou d'une autre, la santé sera dans le développement. Après,
toute la question, c'est
voilà,
comment.
C'est-à-dire, c'est comment et quelle place on lui donne parce que derrière ça, ça veut aussi dire que quand on met en place des objectifs, ça veut dire qu'on a les moyens, du coup, derrière de pousser les gouvernements à s'engager politiquement et financièrement, même si on sait qu'aujourd'hui...
Donc l'enjeu est important.
Donc l'enjeu est essentiel. Ouais, l'enjeu est essentiel. Toute la question, c'est de savoir effectivement si on a un objectif santé, lequel, et comment faire en sorte en fait que les acteurs du domaine de la santé, du secteur de la santé, s'accordent derrière un seul objectif.
Alors je vais faire réagir Catherine Gibouin et ensuite Luc de Bernis. Catherine Gibouin de Médecins du Monde.
Je voulais juste rajouter quelque chose, c'est que quand même l'OMD 5 en 2000, il était mortalité maternelle stricto sensu consensus, qui était quand même le minimum syndical. La question de la santé reproductive avait merveilleusement disparu du sujet alors que ça avait été acté
dont
en
80... l'accès à la contraception.
Dont l'accès à la contraception. C'est pas totalement un hasard si ça avait disparu en 2000. Donc il a fallu attendre 2007 pour qu'on rajoute non pas un OMD, mais un sous-objectif sous l'OMD 5 sur l'accès à la santé sexuelle et reproductive, avec en particulier la question des grossesses adolescentes, de la prévalence de la contraception, etc. Donc là, on est sur un sujet qui a été introduit en 2007, bien conscient, grâce au lobby d'associations plutôt féministes, on va dire pour faire simple, bien conscient que ces questions-là participaient largement à la question de la santé des femmes et de la mortalité maternelle, mais qu'il fallait donc prendre en compte. Donc c'est vrai que c'est des sujets qui ont été rajoutés tardivement, et quand je vois...
Ce serait dommage de les supprimer aussi vite, c'est ça?
Oui,
ce que...
et dans la déclaration de Rio, effectivement, on a rajouté la question de la santé, mais il y a eu tout un débat sur la question des droits des femmes et des droits en matière de santé sexuelle et reproductive qui ont disparu. Donc je pense qu'il faut aussi qu'on soit vigilant, parce que on est toujours confronté à des pays relativement conservateurs et à des reculs de droits potentiels tout le temps.
Docteur Luc de Bernis.
Oui, non, j'appuie vraiment ce qui a été dit avant, et merci pour rappeler qu'effectivement la santé de la production a été rajoutée secondairement aux OMD, et ça a été un combat difficile. Je crois qu'on est dans une situation où les enjeux sont, comme il a été dit aussi, extrêmement importants pour la santé. Alors, une chose, c'est que d'abord les OMD, ils avaient été décidés de manière non participative, et que cette fois-ci, on a un dialogue au niveau mondial qui est quand même assez intéressant, évidemment compliqué, parce qu'il faut voir toutes les agences et tous les groupes et tous les partenaires qui sont impliqués dans ce dialogue, mais il y a une réelle volonté d'avoir un dialogue au niveau mondial sur ces questions. Donc c'est déjà très intéressant. Au sein des acteurs de santé, il y a un consensus pour dire qu'on ne peut pas laisser tomber les OMD, ils ne sont pas atteints, donc il faut les maintenir. Donc comment les maintenir? Et l'idée, c'est d'avoir un indicateur pour la santé qui serait, pour l'instant, la couverture universelle. Mais évidemment, encore faut-il se mettre d'accord sur ce qu'on entend par couverture universelle. En tout cas, couverture universelle qui continuerait à s'occuper de la santé des femmes en priorité, donc de la santé sexuelle et de la reproduction, et puis des maladies non infectieuses.
Et ça veut dire, Luc de Bernis, que l'objectif serait que toute personne dans le monde ait une assurance, une couverture santé universelle, c'est ça?
Voilà. Et la France, d'ailleurs, a été en pointe, puisque la France a soutenu une résolution aux Nations Unies sur ce sujet. Donc la France a fait un choix très très clair en faveur de la couverture universelle. C'est l'accès de tous à des soins de base, mais c'est aussi pour l'éducation et pour d'autres services. Mais la santé serait donc évidemment tout à fait concernée par cette approche-là. Et c'est une approche qui fait quand même, je crois, largement consensus, en tout cas dans les réunions internationales auxquelles nous assistons, les représentants des pays et les représentants des partenaires soutiennent en général cette approche. Maintenant, est-ce qu'on va réussir à l'imposer au niveau du débat mondial? C'est toute la question. Donc il y a un énorme travail de communication, de lobbying qui est en train de se faire pour que la santé reste une partie importante dans le développement mondial.
Et qui serait contre? Pourquoi c'est compliqué?
Personne n'est jamais contre, évidemment, mais les priorités sont les priorités. Donc quand vous regardez les priorités de développement économique, vous savez que les approches peuvent être très différentes. Pour certains, il est évident et naturel que le progrès socio-économique, le progrès social fait partie du développement économique. Pour d'autres, pour ne citer personne, c'est pas du tout évident. Et quand on voit d'ailleurs les disparités de protection sociale au travers du monde, je ne rappellerai pas le débat qui est quand même absolument passionnant pour un Européen et un Français en particulier, qui a lieu en ce moment aux États-Unis sur la couverture de la population en matière de santé. Donc,
nous qui sommes si attachés à notre sécurité sociale.
Et exactement, et qu'il faut soutenir, et qu'il faut renforcer, et qu'il faut améliorer. Mais dans le dialogue mondial, donc vous voyez, toutes ces questions prennent une importance aussi très grande, et il faut donc maintenir, faire passer des valeurs de solidarité, des valeurs d'égalité par rapport aux soins, et aussi à l'éducation. Je crois que soins et éducation doivent aller vraiment très ensemble. Et donc là, on voit des pays qui soutiennent cela de manière très forte et d'autres qui sont beaucoup plus réticents.
On arrive à la fin de cette émission. Un mot de conclusion, Annick Janté, je vais faire un tour de table.
Oui, du coup, je suis tout à fait, effectivement, tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense que c'est vraiment la couverture santé universelle qui peut permettre de maintenir la santé à un niveau très haut dans les prochains objectifs du développement, et qu'il faut effectivement tout faire pour que les acteurs de la santé soient derrière cet objectif et qu'on se batte tous d'une même voix pour être sûr qu'au final, la santé est vraiment une place de choix.
Et ça tombe bien, vous battez pour ça.
Voilà, nous, on fait que ça, donc ça tombe bien, c'est mon travail.
Et c'est votre bataille depuis pas mal de temps.
C'est mon bataille, voilà. C'est ma bataille depuis très longtemps, donc j'espère évidemment qu'on va réussir.
Catherine Gibouin.
Bien sûr, la question de la couverture médicale universelle me paraît fondamentale. Sur la question de la santé des femmes, je pense que vraiment l'enjeu, c'est les droits des femmes.
Et qu'il faut le rapprocher de ça, et ce serait l'enjeu. Luc de Bernis, un mot de conclusion.
Oh oui, et je confirme cela si je peux, en disant qu'en même temps qu'on a ce dialogue sur l'après 2015, donc l'après les EMD, on a le dialogue sur la conférence du Caire 20 ans après, où est-ce qu'on en est dans l'agenda de la santé pour les femmes et la santé de la reproduction. Donc on est vraiment.
La conférence du Caire, c'est-à-dire ?
C'est la conférence qui a mis en avant la santé maternelle, la santé des femmes. Et la santé de la reproduction comme un droit. Et c'est une conférence qui a été une avancée considérable pour la santé des femmes, mais la santé prise au sens global et la santé de la reproduction et des droits. Et cette année, je remarque qu'il y a aussi une avancée considérable dans la Commission Population et Développement aux Nations Unies, avec un texte sur la santé de la reproduction des adolescents et des jeunes qui est absolument fondamental et qui est lui aussi une avancée considérable. Donc il ne faut pas perdre ça, et il faut que dans le dialogue international qui a lieu en ce moment, les représentants de la santé, mais surtout de la santé de la reproduction, de la santé des femmes, soient extrêmement actifs et entendus pour qu'on ne perde pas ces objectifs de vue.
Merci beaucoup, Dr. Luc de Bernis, Annick Janté et Catherine Gibouin. Merci également. Lundi, on parlera du fonctionnement du cerveau et vous pouvez dès maintenant nous faire part de vos questions, soit par email à priorité.santé@rfi.fr, soit par téléphone au 33 1 84 22 75 deux fois, et bien sûr les réseaux sociaux comme Facebook pour nous laisser des messages. Merci à toute l'équipe de Priorité Santé. Bonne fin de semaine et à lundi.